Radio Okapi.
Voici notre grande édition dominicale vespérale de nos informations avec Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité: Kinshasa abritera du 25 avril au 4 mai prochain des journées portes ouvertes sur l'évolution du processus électoral en RDC. À l'occasion, la CENI va faire le point sur la finalisation du traitement des données collectées déjà lors de l'actualisation du fichier électoral. Le gouverneur du Nord Kivu fustige la reprise par les rebelles du M23 des positions dégarnies dans des localités de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo malgré le déploiement des troupes de l'EAC. Le général Constant Dima a exprimé ce ras-le-bol lors d'un point de presse co-animé avec le commandant de la force régionale. Notre invitée, c'est la coordonnatrice du Centre multidisciplinaire d'appui et de développement des femmes. Madame Fanny Ukechi parle de renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs de Bounia, objectif affiché, réduire le chômage en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par une page politique. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise du 25 avril au 4 mai prochain à son siège de Kinshasa des journées portes ouvertes pour informer les parties prenantes de l'évolution du processus électoral en RDC. Dans un communiqué rendu public ce week-end dans la capitale, cette institution d'appui à la démocratie précise que c'est dans le souci de transparence et d'inclusion pendant cette période consacrée à la finalisation du traitement des données collectées lors de l'actualisation du fichier électoral. D'autres précisions avec vous, les Choualassa.
Dans ce communiqué signé par Madame Patricia Nsea Mulela, rapporteur de la CENI, il est aussi indiqué que les opérations de détection des doublons au niveau national et l'audit interne du fichier électoral ont déjà commencé et vont se poursuivre jusqu'au 14 mai 2023. Et pour ces journées portes ouvertes, le programme de la Commission électorale nationale indépendante prévoit de rencontrer les médias le 25 avril entre 10h et 13h. L'émission d'observation électorale accrédite seront reçus le 26 avril. Par ailleurs, les organisations de la société civile opérant dans les domaines des élections auront leur journée le 27 avril, tandis que les partis politiques et toutes tendances confondues auront deux journées les 28 et 29 avril. Les confessions religieuses sont prévues pour le 2 mai, alors que le 3 mai sera consacré aux organisations du système des Nations Unies, les ambassades et les ONG internationales. La boucle sera bouclée le 4 mai avec les membres du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, le Sénat et l'Assemblée nationale.
Merci les Choualassa pour ces précisions. Restons à Kinshasa. Think Tank Minzoto, c'est le nom du réseau d'échange entre les jeunes Congolais et le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été lancé hier au Palais de la Nation par la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse. S'adressant spécialement à une centaine de représentants de jeunes venus des diverses associations, Madame Chantal Yelou Moulop les a exhortés à être plus actifs dans cette initiative. Elle est au micro de Billy Valutumba.
Les jeunes vont avoir un dialogue avec le président de la République, mais en mettant en place des processus. Par exemple, le calling center, où les jeunes vont appeler pour parler de leur bonheur, de leurs difficultés, ou bien s'exprimer de toutes les manières. Et de l'autre côté, il fallait avoir un podcast, une radio digitale, qui va permettre aux jeunes de pouvoir venir et aussi de créer des émissions sur la situation des jeunes. C'est seulement avec les jeunes qu'on peut développer ce pays ici, mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir un cahier de charges sur les situations de la jeunesse et savoir exactement quelles sont leurs frustrations et trouver les solutions. Mais pour trouver les solutions, c'est eux aussi qui doivent trouver les solutions parce que c'est eux qui connaissent mieux leur situation. Il faut déjà savoir que le think tank sera au sein de la présidence. Le think tank sera un produit du président de la République, le chef de l'État. Mais le résultat qu'on va avoir, c'est de pouvoir résoudre les problèmes de la jeunesse.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, le gouverneur du Nord Kivu dit constater avec regret la reprise des rebelles du M23 des positions qui étaient dégarnies dans certaines localités du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, malgré le déploiement des troupes de l'EAC. Le général Constant Dima a exprimé ce ras-le-bol lors d'un point de presse conjointement animé hier à Goma avec le commandant de la force régionale. Ce dernier a donné des assurances. Le compte-rendu de Denis Lukesu.
Prenant langue avec sa population, le gouverneur des provinces du Nord Kivu, le général Constant Dima, n'a pas caché son regret de voir le M23 reprendre quelques positions qu'il avait abandonnées il y a quelques jours dans certaines localités du territoire de Rutshuru notamment.
Curieusement, les contingents se sont déjà déployés, mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a reprise de positions. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme au mémorandum d'attente et aussi la décision du communiqué de Luanda. La population semble être déçue avec le déploiement et l'exécution des feuilles de route de Luanda. Nous constatons que la feuille de route n'est pas tellement respectée à la lettre.
De son côté, le commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Niaga, a rassuré l'engagement des troupes sous ses ordres à soutenir et protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Lors du conseil des ministres de vendredi dernier, le gouvernement avait annoncé que les rebelles du M23 sont en train de renforcer leur position dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Goma, Denis Lukesu, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa où les forces politiques alliées de l'UDPS condamnent les propos tenus récemment au Bénin par Paul Kagame qui tient à récupérer des terres en RDC. C'est confiant à la presse hier dans la capitale congolaise, le coordonnateur de cette plateforme politique appelle la communauté internationale à prendre des sanctions sévères contre le président rwandais dont les visées expansionnistes ne sont plus à démontrer. Laurent Batumona est au micro de Paul Matendo.
Les forces politiques et sociales condamnent avec véhémence les dernières déclarations de M. Paul Kagame, président du Rwanda, tendant à justifier la guerre à l'Est pour récupérer des soi-disant terres rwandaises qui se trouveraient sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les dites déclarations de Kagame font expressement fi à l'histoire et aux conventions internationales. Cela mérite sanction exemplaire de l'ensemble de la communauté internationale. Depuis 1997 jusqu'à ce jour, M. Paul Kagame déstabilise la RDC pour une énième fois encore, toujours par suite d'une présence imaginaire sur le territoire de la RDC des troupes des forces armées de libération du Rwanda, FDLR en sigle. Les forces politiques et sociales à l'UDPS condamnent tous ceux des États voisins qui encouragent le régime rwandais, agresseur connu de la République démocratique du Congo, à servir de base arrière à travers l'achat de terres en RDC.
Revenons un instant au Nord Kivu, le président honoraire et conseiller de la société civile d'Eringeti alerte ce dimanche sur des mouvements suspects de présumés rebelles ougandais de l'ADF à l'ouest du groupement de Babumba Kisiki dans le territoire de Beni. Baravo Valuku redoute les pires pour les agglomérations situées dans la zone. Il exhorte par conséquent les FARDC à intervenir au plus vite pour protéger la population. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Nous alertons sur le mouvement et l'installation des positions des ADF dans la partie ouest du groupement de Bambo Bakisiki, plus précisément à Katoa Kasoya, Amutuei, Samboko. Tous ces villages-là se situent à la frontière entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri, mais ce sont des villages qui sont très proches de l'agglomération de Eringeti. Et souvent quand l'ennemi s'installe dans ces positions-là, c'est donc l'agglomération Eringeti, Maimoya, Samboko Chani, Ndalia, Luna, et une partie de Oicha et Mamove sont touchées directement. Et ici, nous alertons les autorités militaires. Le commandant des opérations Sokola doit nous aider à venir mener des opérations vers ce coin ici, puisque depuis que les opérations ont commencé, on n'en a jamais eu dans cette partie de la République. Et c'est le seul lieu où les ennemis viennent se concentrer toujours quand ils veulent déstabiliser les agglomérations précitées.
On enchaîne avec Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, où les musulmans ont achevé aussi vendredi après-midi le ramadan Après la prière, ils ont partagé un repas au siège de la communauté dans la commune de Bassoko. En signe de solidarité, ils ont remis des vivres aux démunis et aux détenus de la prison du cinquantenaire. À cette occasion, le missionnaire régional a plaidé pour l'amour du prochain avant de condamner fermement les violences qui sévissent ces jours-ci à l'est de la RDC. Farid Ahmed Bati est au micro d'Irène Boma.
Nous avons en train de fêter notre fête du mois de Ramadan. Pour cette raison, nous en train d'aider les autres aussi, sans race et religion. Nous avons organisé plusieurs programmes. D'abord, nous avons distribué les choses alimentaires à plusieurs gens. À peu près, bénéficiaires, c'est 6 000. À part ça, nous allons partir à Yurdui, jour de fête. Pour partager les joies, nous allons donner les repas à côté prison centrale de Bandundu. 450 détenus qui sont là. À part ça, nous allons en train de donner les repas à tous les croyants qui viennent pour les fêter ici. Nous avons gorgé les vaches et nous avons en train de manger et nous sommes en train de fêter ensemble ici, comme vous voyez. Pour cette raison, les guerres, les haines, le racisme, ce n'existe pas. L'islam est notre religion qui est en train de donner le message de paix, que nous restons ensemble, même vous êtes chrétiens ou musulmans ou sikhs, nous restons ensemble avec la paix et l'amour. Malheureusement, ici nous voyons parfois, il y a problème de racisme, de tribus qui est en train de bagarrer entre eux. Et normalement, ils sont en train d'adorer même Dieu. Et notre Dieu, c'est une seule Dieu. Et nous habitons en même pays. Pourquoi il y a les bagarres, il y a les dérangements? La religion nous enseigne l'amour et la fraternité.
Dans un autre chapitre, l'Union nationale des nationalistes UNANA, membre de l'AFDCA, appelle les politiques à se préparer aux élections de décembre prochain et à envisager des initiatives qui rassemblent tous les Congolais. Lors d'une matinée politique tenue ce samedi à Kinshasa sur le programme d'action de l'Union sacrée, le leader de l'UNANA a appelé les Congolais à rendre la RDC meilleure aujourd'hui qu'hier. Les propos de Willy Michiki ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons dit à travers cette matinée politique, nous avons confirmé que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Deuxième chose, nous allons aux élections pour les gagner. Et pour les gagner, il faut s'organiser. C'est pourquoi nous avons dit à l'INANA que nous ne voulons pas que ceux-là qui vont échouer demain puissent avoir des prétextes. Nous avons dit, nous sommes contre l'initiative de Noël Sani. Nous ne croyons pas que ce genre d'initiative puisse rassembler les Congolais. Nous voulons aujourd'hui aller avec tous les Congolais aux élections. Et là, nous l'exprimons librement à l'Union sacrée. Comme l'Union sacrée est une plateforme politique et populaire. Nous avons voulu demander aux Congolais et Congolais de s'en approprier, de s'imprégner de son programme dans tous les secrets de la vie, pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur que ce que nous vivons.
L'actualité, c'est aussi la pose ce week-end en Mbujimayi de la première pierre pour la construction et l'équipement de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Bipemba. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Les travaux sont cofinancés par la Banque africaine de développement, BAD, et le gouvernement congolais à hauteur de plus de 120 millions de dollars américains, de l'argent prévu également pour les aéroports de Kindu, Kisangani et Mbujimayi. C'est un reportage d'Esther Dalafi.
L'aérogare de l'aéroport de Bipemba sera construite pendant 24 mois par l'entreprise All One Builders Construction. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, le directeur général de la RVA ad interim a décrit les travaux qui seront effectués.
Le terminal sera composé de deux circuits, dont l'un pour les arrivées et l'autre pour le départ, entièrement séparés l'un de l'autre, et c'est dans le respect de règlements nationaux et internationaux en matière de sûreté aéroportière. Pour ces besoins en énergie électrique, le bâtiment sera doté d'une cabine basse tension équipée de transformateurs de 800 kVA. En ce qui concerne son fonctionnement, l'aérogare sera doté de tous les équipements et systèmes aéroportiers modernes.
Les responsables de l'entreprise All One Builders Construction qui va exécuter les travaux a rassuré que la construction de cet aérogare va changer l'image de la ville.
C'est donc l'occasion pour moi de souhaiter que nous passions la phase de l'attrapage des infrastructures dégradées au stade de la construction d'une véritable métropole moderne à l'image de la richesse de son sous-sol.
Signalons que le lancement des travaux de construction de l'aérogare intervient une année et demie après le lancement des travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Bipemba. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Allemagne a commencé ce dimanche à évacuer ses ressortissants du Soudan selon les ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères sur Twitter. Objectif visé, mettre le grand nombre de ressortissants allemands à l'abri du danger. Pendant ces temps, les affrontements se poursuivent à Khartoum. Une fois encore, ni l'armée nationale ni les FSR n'ont accepté de respecter les promesses de cessez-le-feu. La journée d'aujourd'hui est marquée par des nouvelles explosions et échanges des tirs dans la capitale. Le bilan très provisoire dressé par l'OMS fait état de 413 morts et plus de 3500 blessés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en juin prochain à Paris. Annonce faite ce dimanche par la présidence algérienne après un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron au centre de préoccupation les relations bilatérales entre les deux pays. Rétropédalage de l'administration israélienne. Madame Mai Golan, nouvellement promue ministre sans portefeuille, devait être nommée consul général à New York, une fonction qui sert généralement de pont entre l'État hébreu et le djihadisme américain. Sa nomination a été mal accueillie aux États-Unis, à Washington précisément, ce qui semble contraindre Israël à faire marche arrière.
L'invité.
Notre invitée, c'est la coordonnatrice du Centre multidisciplinaire d'appui et de développement des femmes. Madame Fanny Ukechi parle du renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs de la ville de Bounia. Objectif, réduire le chômage dans la province de l'Ituri. Elle s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Madame Fanny Ukechi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aviez lancé ici récemment un projet comment renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs ici dans la ville de Bounia. Quel est l'impact de ce projet dans une ville comme Bounia?
Ce projet, nous l'avons conçu à base des besoins que nous sommes en train de voir ici. Parce qu'il y a vraiment le chômage de la jeunesse a un problème très sérieux. Et il n'y a pas suffisamment d'appui au projet de jeunes, mais aussi à la jeunesse en général. Alors nous avons pensé à ce projet. C'est juste pour essayer un peu de leur donner des compétences. Ça concerne les jeunes de 15 à 35 ans. Et parmi ces jeunes, il y a ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier et qui peuvent apprendre des métiers. Et avec ces métiers, ils peuvent soit aller chercher de l'emploi quelque part.
Est-ce que vous misez aussi sur les catégories? Parce que ici, dans la ville de Bounia, il y a pas mal de jeunes qui se débrouillent en tout cas. Certains font des grillades un peu sur la route. D'autres sont des artistes, des peintres, ainsi de suite. Est-ce que vous misez sur différentes catégories des jeunes entrepreneurs ici, dans la ville?
Nous sommes un peu contrés par le budget. C'est pourquoi nous avons une catégorie que nous appelons les vulnérables. Bien sûr que tout le monde est vulnérable,
oui.
Mais il y a quand même un degré de vulnérabilité qui va nous guider dans la sélection. Et nous voulons vraiment les plus vulnérables, ceux-là vraiment qui n'ont pas vraiment des moyens comme tels. C'est un projet qui couvre quand même 3 ans, 39 mois. Le budget alloué au projet, c'est pas grande chose. Ça va toucher 250 jeunes.
Et quel est l'intérêt que vous accordez à la participation féminine? Il y a des jeunes filles qui œuvrent justement dans le secteur de l'entrepreneuriat et même des femmes qui se débrouillent tant soit peu vu leur maigre revenu ici dans la ville.
Et ça, c'est un programme que nous avons depuis 15 ans. Nous sommes en train d'appuyer les femmes entrepreneurs et les jeunes filles dans la ville de Bounia, pas seulement dans la ville de Bounia, mais dans toute la province. Dans ces programmes d'espoir, nous avons 3 catégories de femmes. Nous voulons vraiment appuyer à partir de la base, c'est-à-dire même cette femme-là qui se promène avec les beignets, l'avocat, banane sur la route, doit avoir accès au financement et doit être appuyée. Deuxième catégorie, c'est la classe moyenne. Ce sont les femmes qui ont des activités qui marchent. Ce ne sont pas des débutantes. La dernière catégorie, ce sont les femmes que nous appelons les ambassadeurs. Ça, ce sont les femmes entrepreneurs, des entreprises réellement.
Est-ce qu'il y a des exigences pour être éligible dans ce projet-là?
Les critères que nous utilisons le plus, c'est que la femme ou la jeune fille qui vient chez nous, ou même le jeune, qu'ils aient quand même une petite activité. Parce que je dis bien ici, nous appuyons les activités existante de ces bénéficiaires. Nous ne créons pas d'activité. Il ne faut pas dire, ok, viens faire la couture ou bien viens faire ceci. Non. Vous venez avec l'activité que vous faites, même si c'est une petite activité, notre objectif, c'est de vous prendre de là où vous êtes et de vous accompagner jusqu'à la réussite, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez devenir autonome.
Vous avez l'appui des partenaires qui vous appuient dans ces projets-là. Quelle est la chance que vous accordez pour l'effectivité de ce programme? De manière qu'ils puissent vraiment contribuer à réduire les taux de chômage qui est en Ituri et qui pousse certains jeunes à emboîter même des forces négatives, des groupes armés.
Ce programme des jeunes a l'impact vraiment grand parce que la délinquance est due à des causes différentes. Quelquefois, il y a les conflits armés, mais il y a aussi manque de responsabilité, manque d'encadrement par les parents. Quand les jeunes sont occupés, moi je pense que les degrés de manipulation sont minimes. Parce que les jeunes occupés peuvent gagner la vie comme telle. Au Congo, nous sommes en train de nous battre.
Madame Fanny Ouketi, merci.
Merci aussi.
C'était l'invité de Radio Okapi, la coordonnatrice du Centre multidisciplinaire d'appui et de développement des femmes. Madame Fanny Ouketi a été interviewée au téléphone par Ezekiel Mouzalia. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pierre-Oyela Meji et Alain Rogmouchige qui m'ont assisté.